Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Est-ce qu'il y en a qui voient des fois passer ces... Comment c'est pas des sondages, c'est des concours sur Instagram. Vous voyez de quoi je parle? Les fameux concours Instagram. Juste que je sache s'il y a besoin que je contextualise puis que j'explique ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais vécu ça. Si je te disais aujourd'hui, c'est bon, tu as gagné. T'as pas besoin de suivre mon compte. T'as pas besoin non plus de t'abonner à moi ou à n'importe quel autre compte. T'as pas besoin de poster cette story dans ta story à toi. T'as gagné 500 000. Qui ici aimerait ce 500 000? Ok, il y en a que la moitié qui soit honnête. Les autres, non, moi ça va, la vie, merci, c'est bon. Je ne saurais que faire de cet argent. C'est ok. Il n'y a pas de tirage au sort. En plus, ça, c'est pour tout le monde. C'est comme ça tu l'as gagné. Maintenant, il y a un petit piège. C'est qu'une fois que tu auras touché cet argent, tu n'auras plus jamais un centime de plus. 500 000 francs et c'est fini. Pourquoi pas, why not? J'ai envie de te dire, on a tous 500 000. En moyenne, on a tous 500 000 en fait. 500 000, c'est 500 000. J'ai fait une moyenne en estimant qu'ici, la moyenne d'âge, c'était 27 ans. Et il te reste... Il y en a qui disent, quoi? Pas du tout. Je suis beaucoup plus jeune. Puis il y a les autres qui disent, yes, on m'a rajeuni ce soir. Mais si tu as 27 ans, il te reste statistiquement en Suisse encore 57 ans à vivre. Et 57 ans, c'est environ... 500 000 jours. Donc ça fait beaucoup de jours, mais tu n'en as pas un seul de plus. Statistiquement, encore une fois, rassure-toi, là, ce n'est pas une prophétie ou quoi, c'est juste statistiquement. Donc le 500 000 que tu viens de toucher, tu l'as en fait. C'est environ le nombre, pardon, d'heures, pas de jours, d'heures qui te restent. Alors ma question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et on en a plein des exemples comme ça. Là, je te parle en heures, on peut parler en journée, en semaine, en année. Si tu es un petit peu dans tout ce qui est de l'efficacité, c'est le genre de petites blagues qu'on fait souvent. Mais ce soir, j'ai envie de te poser la question de façon beaucoup plus sérieuse. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as? Parce qu'on a tous du temps, n'est-ce pas? Ça, c'est le mensonge du siècle, c'est de croire qu'on n'a pas de temps. J'ai envie de dire qu'on a tous le même temps, en fait. Pour toi comme pour moi, indépendamment de ce que tu fais dans ta vie, tu as une journée c'est 24 heures, on a tous ça. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Et ça a été dit, on est dans une série, hein, du cœur aux mains, ces paraboles qui nous transforment. Et Jésus donnait souvent des petites illustrations, des images qu'on appelait par la suite des paraboles justement. Et c'est des récits qui sont toujours censés nous amener à une réflexion. Des fois c'est une lecture, il y a toujours multiples lectures à chaque parabole, des fois c'est assez évident où est-ce que Jésus veut en venir, d'autres fois ça semble évident mais quand même, quand les disciples de Jésus se trouvent avec lui un peu seuls, ils disent « qu'est-ce que tu voulais dire en fait par cette histoire ?» Même si devant les autres ils faisaient un peu de ces « incroyable Jésus ». Aujourd'hui on va lire une de ces paraboles ensemble, si vous avez vos Bibles, ouvrez-la, on va aller à Matthieu au chapitre 25. Et puis si vous n'avez pas de Bible, laissez-nous vous faire un cadeau, on a des Bibles pour vous. À la fin, venez nous voir qu'on puisse vous donner une Bible, c'est un livre phénoménal. Matthieu 25, on va lire les 12 premiers versets. Matthieu 25, les versets 1 à 12. Et je vais le lire, ça va s'afficher au-dessus de moi, tu peux le suivre sur ta Bible. Mais encore une fois, s'il te plaît, assure-toi d'avoir une Bible dans ta vie. Et puis au passage, c'est un best-seller depuis tellement longtemps qu'on l'a sorti des listes des best-sellers, mais j'ai envie de dire pour tous ceux qui se revendiquent disciples et chrétiens, c'est malheureusement le best-seller le plus vendu et le moins lu. Alors il serait peut-être temps qu'on change la tendance un petit peu, d'accord? C'est pas juste une histoire d'avoir la Bible, c'est de lire la Bible. Voilà, c'était un peu de temps pour tous ceux qui tournaient les pages de leur Bible. Est-ce qu'il y en a qui sont rétro ici, qui ont une Bible papier? Yes! On vous aime spécialement, merci. Vous êtes meilleurs que les autres. Ah, donc en fait, il y a du monde dans la salle. Des fois je parle, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, mais en fait vous m'écoutez, c'est incroyable. Ok, c'est pas vrai, vous êtes aussi aimés. Matthieu 25, les versets 1 à 12, on y va. Alors, le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Pardon. Verset 8. « Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute ceci « Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » J'aime tellement ces histoires de Jésus mystérieuses. Si tu es un petit peu familier avec le contexte chrétien, tout ça, dis c'est bizarre, mais ça va, c'est Jésus, quoi, tu vois. Il raconte des fois des histoires, on ne comprend pas tous les tenants, les aboutissants, mais bon, c'est Jésus, on lui donne ça. Si tu es féru, tu sais que c'est une parabole assez compliquée parmi les paraboles de Jésus. Il y en a qui ont des pistes et des grilles de lecture plus simples que celle-ci. Mais si tu ne connais pas trop la Bible, tu dis c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce qu'on vient de me raconter? En plus de ça, là, j'ai pris une traduction un peu contemporaine, jeune, dynamique. À l'époque, on l'appelait la parabole des 10 vierges. Si tu dis ce mot, c'est encore plus intense. Comme, c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est quoi 10 vierges? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce marié? C'est quoi l'histoire? Alors, juste un tout petit peu, c'est vrai qu'elle est bizarre, elle est surprenante, elle n'est pas facile d'accès. Même aujourd'hui, différentes théologies ont vraiment différentes grilles de lecture. Alors, il y a toujours une même direction, mais il y a quand même beaucoup de grilles de lecture, beaucoup de niveaux de lecture pour cette parabole. Mais c'est aussi ça une parabole, c'est utiliser une image qui peut dire beaucoup de choses. Et on va voir différents éléments qui sont représentés dans cette histoire. Ici, laisse tomber pendant un instant l'histoire de mariage, la potentielle histoire de virginité ou quoi. On a surtout deux attitudes qui sont mises en avant. D'accord, ça c'est assez évident. On est tout à fait d'accord, il y a deux attitudes, il y a comme deux groupes de personnes. Il y a celles qui sont sages et puis celles qui sont pas sages. L'autre image qu'on a, c'est l'image d'un mariage. Et puis si tu n'es pas familier, encore une fois, avec l'Église, c'est souvent comme ça qu'on parle aussi de Jésus, de l'attente de Jésus, qu'on appelle aussi parfois l'attente messianique. On nous parle d'un mariage, on nous dit que Jésus est l'époux, que l'Église est l'épouse, et puis qu'il y a cette attente, et c'est quelque chose qui est récurrent dans la Bible, d'accord? Donc juste que tu gardes aussi ça à l'esprit. On voit donc deux façons d'attendre Jésus, deux façons de vivre notre quotidien à la lumière de cette attente de Jésus. Parce que Jésus est venu, mais Jésus va revenir. Et il y a cette réalité de comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on fonctionne jusqu'au retour de Jésus. Parce que c'est jamais flash info, le monde tel qu'on le connaît ne va pas durer pour toujours. Ça, c'est les films et puis les récits qui nous racontent ça. Ce n'est pas vrai dans la vision du monde chrétienne. On sait qu'il va y avoir un temps où ce monde va s'arrêter. Il arrivera à la fin, puis il sera marqué notamment par le retour de Jésus. Puis Jésus nous dit, semble en tout cas dans cette parabole nous dire, il y a différentes façons de m'attendre. Il y a deux façons de m'attendre. Tu peux être sage ou tu peux être bête. Moi, j'aime bien le dire assez franchement. Tu sais. C'est ça que Jésus est en train de dire. Est-ce que tu es sage ou est-ce que tu es teubé, tu sais. Il y a deux camps, c'est assez simple. Puis dans cette parabole, la sagesse et la folie sont différenciées par le fait d'avoir de l'huile en réserve. Alors encore une fois, j'aimerais te donner juste un tout petit peu de contexte. L'huile, c'est plein de choses, d'accord, mais dans la parole de Dieu, à différents endroits, l'huile, c'est aussi une représentation symbolique de plusieurs choses, notamment la présence de Dieu. Ou ce qu'on appelle aussi par moments l'onction. Donc l'huile, c'est aussi cette image-là qu'il faut avoir quand on entend cette histoire, c'est aussi cette image-là qu'il faut avoir à l'esprit. Puis ce qu'il semble dire dans cette histoire, Jésus, c'est « Hé, veillez à votre huile. Veillez à votre huile. Veillez à ma présence. Veillez à votre relation avec moi alors que je ne suis pas encore là. Veillez à comment vous vivez votre relation avec moi alors que je ne suis pas encore là. » Puis c'est intéressant parce qu'on parle de veiller dans cette parabole, il nous dit qu'elles ont gardé un peu d'huile de côté, ces vierges sages. D'autres ont dépensé, puis c'est intéressant parce que quand je regarde la société, je vois que d'un côté, on ne nous parle pas tellement de réserver quoi que ce soit. Je ne sais pas si tu as conscience de... C'est fast life, c'est une expression un petit peu. On veut vivre à fond, on veut vivre tout ce qu'on peut. Il y a des vieilles expressions pour les vieux dans la salle, comme YOLO, tu sais. You only live once, peut-être tu as entendu parler. Si tu as entendu ça, tu es vieux, là, d'accord? Si tu n'as pas entendu, c'est normal. Mais on vit une seule fois, il faut que tu essayes tout. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Moi, j'ai des amis qui me disent ça. Hein. Moi, j'aimerais bien, mais il faut que je teste encore, tu sais. Il faut que je teste encore, il faut que je vois, il faut que j'essaie, il faut que je goûte, il faut que je découvre. Il faut que... Et là, Jésus semble dire, lui, à l'inverse, veille sur ton huile, ne la dépense pas n'importe comment. Et c'est important, cette image d'onction, cette image de présence de Dieu, cette image de Dieu lui-même, en fait. Comment est-ce qu'en tant que disciple de Christ, on veille sur notre relation avec Dieu? Maintenant, si tu es sage, tu fais tout pour ne pas manquer de la présence de Dieu. Être sage, on pourrait le résumer comme ça, si on lit cette parabole, une des lectures de cette parabole, c'est ne manque pas ta relation avec Dieu, ne manque pas de la présence de Dieu dans ta vie. Puis là, il devrait y avoir deux, trois personnes qui, au moins dans leur cœur, disent oui et amen. C'est important la présence, c'est important de veiller sur ça. J'ai trouvé intéressant parce que je pensais à nous aujourd'hui, puis j'étais marqué par une chose. La sagesse, c'est pas d'avoir une jolie lampe. La sagesse, c'est pas juste d'avoir une belle apparence. La sagesse, c'est pas d'avoir le bon job. La sagesse, c'est même pas d'avoir la réponse à toutes les questions. Il semblerait que ces 10 femmes, sages et pas sages, sont sorties en attendant, puis ça a passé longtemps, puis elles savaient pas pourquoi ça passait longtemps, puis les 10 se sont endormies. Donc ça ne semble pas avoir toute la réponse à toutes les questions. Ce n'est pas savoir avec qui tu vas te marier, ce n'est pas savoir si tu vas te marier, ce n'est pas savoir combien avoir d'enfants. C'est... La sagesse, c'est la présence de Dieu. Et je trouvais ça fascinant en fait. Est-ce qu'on est désireux de réfléchir dans nos vies, comment est-ce que je cultive la présence de Dieu? Parce qu'il y a plein de choses hein, qui nous occupent au quotidien, si on est vrai, si on parle vrai pendant un instant. C'est quoi le job que je dois faire? Alors pardon, pour tous ceux qui sont très chrétiens confirmés, c'est quoi mon appel, tu vois? C'est quoi le job que je dois faire? Est-ce que je dois me marier avec lui ou pas? Est-ce que je dois me marier avec elle ou pas? Est-ce que je dois partir dans ce pays ou pas? Est-ce que je... Do I look good? Est-ce que je ressemble à quelque chose de bien aussi? C'est, on se pose plein de questions comme ça. Et je pense que c'est OK, il y a une part pour ces questions. Mais cette histoire, elle semble nous dire autre chose. Est-ce qu'on veille sur notre huile? Et tu vois, cette histoire, elle me rappelle que parfois, ce qui nous impressionne, nous, c'est l'apparence de nos lampes. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est la quantité d'huile qu'il y a dans nos lampes. Et ça me fait penser, pour tous ceux qui ont grandi avec l'histoire biblique, ça me fait penser à David, quand il est loin, Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Il semble qu'on a une même histoire ici. Méfie-toi des apparences, qu'est-ce qu'il y a au fond? Alors maintenant, rapidement, j'aimerais voir avec vous, pourquoi c'est important de veiller à avoir de l'huile? Pourquoi est-ce qu'on doit chercher, chacun d'entre nous, à garder notre huile? Je te donne trois raisons très faciles. Si tu prends des notes, tu peux les noter. Tout d'abord parce que dans la vie, il y a par moments des délais imprévus. Dans la vie, il y a des fois des situations qui se passent, tu n'avais pas prévu ça. Et c'est bon que tu aies de la présence de Dieu dans ces moments-là. Je ne sais pas si tu as déjà connu quelqu'un, je suppose, que tu connais quelqu'un qui est passé par une maladie tout à fait imprévue. Ce n'est pas simple, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui arrive comme ça, puis c'est bon que tu aies un peu de réserve, de « je connais Dieu même malgré tout ce qui se passe ». Je n'ai pas toutes les réponses, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai Dieu avec moi, ça va. Il y a des fois des imprévus dans les finances, lève pas la main si ça te concerne. Là. Il y a des fois des délais et des temps, des imprévus dans nos projets à nous. Moi, j'ai connu des gens, lève pas la main, il y a peut-être des gens qui sont fiancés ici, je sais qu'il y en a qui sont fiancés ici. Moi, j'ai connu des gens qui, pour des raisons tout à fait indépendantes de leur volonté, ont dû décaler leur mariage d'une année. Tu sais, des fois, des délais imprévus dans la vie. Puis pour ces moments-là, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y en a qui vivent en ce moment peut-être un délai, quelque chose qui n'était pas prévu. Moi, j'ai eu des délais dans mes études, j'ai eu des délais dans mes projets, j'ai eu des délais dans plein de choses. Puis j'ai envie de te dire, il y a de fortes chances que quand les délais arrivent, tu peux survivre si tu as un peu d'huile en réserve. Quand tes délais arrivent, tu peux survivre si tu as un peu d'huile en réserve. Un bon exemple dans la Bible, pour tous ceux qui, après ce message, auront envie d'aller creuser davantage dans la Bible, lis l'histoire de Joseph. Il y a eu un sacré délai pour ce gars-là. Tout jeune, il avait des rêves, il avait « c'est bon, je sais ce qui va se passer » ou quoi, puis il est passé par plein d'aventures qui n'étaient pas prévues. Il y a une autre raison pour laquelle il faut avoir un peu de réserve d'huile. C'est parce que la deuxième raison, des fois, il y a des choses qui doivent se passer, mais qui ne sont possibles que si tu as des réserves. La vie à laquelle Dieu t'invite est une vie de foi. Puis il y a des fois, il y a des opportunités, il y a des choses qui sont là, puis si tu n'as pas de réserve d'huile, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Parce que ça te demande tellement de foi, de suivre Dieu là où il veut t'emmener. Tu sais, Jésus, il est bon dans le fait de disrupter nos projets. C'est-à-dire que nous, on aime faire des projets, hein. Et puis on fait des plans, c'est sur 10 ans, voilà où j'en suis, du coup sur 5 ans, voilà ce que je vais faire, du coup sur 3 ans, du coup sur une année, du coup sur chaque mois, du coup on fait, on a nos projets de ça, puis d'un coup, pap, le facteur Jésus, tu sais. Écoute, t'es là, Jésus, moi j'avais un projet, peut-être on fait un brainstorm, tu t'assois, je te montre mon planning. Puis Jésus, là, j'ai pensé que t'avais un projet, on va aller là-bas maintenant. Puis tu sais, c'est comme un peu... Parce que j'avais quand même regardé avec la banque pour le projet, pour tout ça. Puis Jésus, est-ce qu'on va par là? Puis si tu n'as pas un peu de réserve d'huile, c'est dur d'aller avec Jésus dans ce qu'il te demande. Tu ne pourras pas aller si tu n'as pas des réserves d'huile. Maintenant, c'est important de comprendre qu'il y a une responsabilité personnelle par rapport à ça. Il y a ce que toi, tu peux faire, puis il y a ce que la vie va t'amener de faire. Puis ça, c'est important de le comprendre. Il y a des choses, et moi j'aime cette histoire pour ça, parce que dans cette histoire, il y a une chose qui se passe, c'est que les 10 femmes vont s'endormir. Et elles ont fait tout ce qu'elles ont pu, comme elles ont pensé de le faire. Mais la fatigue, la lassitude, l'incertitude est arrivée chez les 10. Puis les 10 se sont endormis. Puis c'est intéressant, je ne vais pas entrer dans les détails pour des questions de temps, mais dans la Bible, il y a deux significations au sommeil. La première des significations, le sommeil, c'est l'apathie. C'est quand tu as une vie sans zèle, pas de prière, rien du tout, puis tu t'endors, tu vois. Si tu passes ta vie à côté de tes pompes, si tu veux. Puis ça, c'est une façon d'en parler. Mais il y a aussi une autre façon de voir le sommeil, c'est le repos. Puis moi, j'avais toujours lu cette histoire en me disant, mais c'est bizarre, pourquoi les 10, elles s'endorment? Et puis là, j'écoutais un théologien qui disait, il y en a 5 qui s'endorment parce qu'elles n'ont plus de saveur dans leur vie. Il n'y a plus d'huile, elles ne savent pas ce qui se passe, puis en fait, elles passent complètement à côté de leur vie. Mais il y en a 10 qui s'endorment parce que même si elles ne comprennent pas tout, elles peuvent se reposer. Il y en a 5 qui se reposent, puis il y en a 5 qui s'endorment. Et puis maintenant, tu as entendu deux bonnes raisons d'avoir plus de Dieu. Première des raisons, c'est parce que des fois, il y a des délais imprévus. Deuxième des raisons, c'est pour pouvoir entrer dans la bénédiction, puis dans ce que Dieu a pour toi, tu as besoin d'huile. Maintenant, j'aimerais croire qu'il y a une autre raison, puis on l'a chanté un tout petit peu ce soir. On devrait avoir envie d'un peu plus d'huile parce qu'en fait, simplement, c'est Dieu. On devrait avoir le désir de Dieu pour Dieu. Il y a trop de monde qui veut Dieu pour ce que Dieu peut leur apporter. C'est une vision utilitariste de Dieu, opportuniste de Dieu. Ah, je vais prier, comme ça il va me bénir. C'est sûr que je vais être régulier dans les histoires, là, comme ça il ne pourra pas. Mais moi je crois qu'il y a une génération qui se lève, qui va dire je veux juste Dieu pour Dieu en fait. Qu'importe ce qui arrive, qu'importe ce qui se passe, juste un désir inconditionnel de plus de Dieu. Si seulement on pouvait commencer à désirer Dieu, non pas en se disant peut-être je vais manquer, peut-être je vais passer à côté de ma destinée, peut-être qu'il y aura des petits délais, peut-être que... Mais simplement, je veux Dieu parce qu'il n'y a rien de mieux que Dieu pour moi. Et je crois que quand on a goûté un peu de Dieu, c'est ça qu'on réalise. Dans les psaumes, il y a cette réalité qui est exprimée encore et encore et encore. Un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Moïse qui va dire à Dieu, je préfère être avec toi dans le désert que dans la terre promise sans toi. Puis je veux reconnaître qu'il y a toutes des choses qui nous arrivent quand on marche avec Dieu, puis qui sont des bonnes choses, je crois, mais j'ai envie de surtout pas te mentir, c'est pas facile de suivre Dieu. Et on ne devrait pas seulement vouloir Dieu pour les choses qu'on pourrait éventuellement avoir peut-être un jour, mais suivre Dieu simplement parce que c'est Dieu. Je sens que vous, il n'y en a que 3 qui me comprennent. Je vais partir dans une idée folle que plusieurs ici, vous êtes dans une situation amoureuse ou vous désireriez être dans une situation amoureuse. Un jour, plus jeune, très philosophique que j'étais avec une petite copine. Peut-être certains, vous avez eu une petite copine dans votre vie. Peut-être vous avez en ce moment une petite copine. Et cette petite copine me dit, Yves, pourquoi tu m'aimes ? Une très mauvaise question. Vraiment une très mauvaise question. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai plus une petite copine, j'ai une épouse. Mais elle m'a jamais posé cette question. Merci Seigneur. Parce que quand ma petite copine de l'époque m'a posé cette question, j'ai dit, il y a anguille sous roche là. Ça, c'est une question qui en cache beaucoup d'autres. Et du coup, je lui ai dit, je t'aime parce que je t'aime. C'était philo, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu m'aimes ? Et franchement, ça a amené sur une dispute, d'accord ? Ça a amené sur une dispute parce que je voulais surtout pas lui répondre quelque chose, parce que je sentais que si je lui répondais quelque chose, ça allait poser des attentes et des choses qui n'étaient pas... Voilà, bref, ça a amené une dispute. Mais moi, ça m'a fait cogiter pendant vraiment longtemps. Puis du coup, deux jours après, je suis allé vers mon père. Mon père est un homme rempli de sagesse. Puis je lui ai dit, papa, elle m'a demandé pourquoi je l'aime. Puis il m'a dit, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, je t'aime parce que je t'aime. Et là, mon père m'a dit, c'est une très bonne réponse. On est d'accord. On est d'accord. C'est une très bonne réponse. Puis il m'a dit, mais pourquoi c'est une bonne réponse? Et là, je ne savais pas quoi lui dire. Et en fait, il m'a dit, c'est comme ça qu'on devrait aimer Dieu. On ne devrait pas aimer Dieu parce qu'il m'a donné quelque chose. On ne devrait pas aimer Dieu parce qu'il m'a promis quelque chose. On devrait aimer Dieu parce qu'on aime Dieu. Elle m'a dit, c'est important de savoir comment tu chemines avec les gens dans ta vie, Yves. Si tu avais répondu, je t'aime parce que tu es belle, elle aurait eu peur un jour de ne plus être belle à tes yeux. Parce que ça voudrait dire, le jour où elle est plus belle, tu ne l'aimerais plus. Et il s'en est suivi une discussion de 2 heures, ça c'était mon père et moi. On continue à être comme ça, là, des longues discussions des heures et des heures. Mais j'aimerais te dire, c'est la même chose, je rêve de voir une génération. Je rêve de voir des gens dire, je veux Dieu pour Dieu. Je veux Dieu pour Dieu. Je veux Dieu parce que quand tu passes un instant avec lui, ça vaut mieux que tout le reste. Je veux Dieu même si je n'ai pas les réponses à mes questions. Je veux Dieu même si je n'ai pas la vie que j'aurais voulu un jour avoir. Je veux même laisser Dieu changer mes rêves. Il y en a trop qui veulent Dieu pour que Dieu les serve. Il y en a trop qui veulent utiliser Dieu. Et je suis tout à fait d'accord que c'est bien d'avoir de l'huile au cas où il y a des délais imprévus. C'est bien d'avoir de l'huile pour entrer dans ta destinée. Mais si on avait de l'huile simplement parce qu'on aime Dieu, simplement parce qu'il est Dieu. Tu sais, il y a quelque chose qui me questionne profondément. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille en tant que pasteur. Et une chose qui me questionne, c'est pourquoi les gens ne restent pas amoureux de Dieu. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi les gens ne restent pas amoureux de Dieu? Si tu as déjà vu un baptême, si tu n'as jamais vu de baptême, viens, on va en avoir bientôt, embarque avec nous dans cette aventure, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu une personne témoigner à son baptême et dire, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça, bon, tu sais. J'étais un jour là, on m'a dit pourquoi pas, j'ai dit pourquoi pas. En général, les gens sont toujours convaincus, tu sais, au moment du baptême. Il y a beaucoup d'émotions, ils sont passionnés, je sais pourquoi je vais suivre Dieu et tout ça. Et vraiment, un jour, quelqu'un m'a dit, tu verras, Yves, le zèle, il va passer. Et moi, j'ai refusé ça. J'ai dit, non, alors je ne sais pas quel Dieu tu connais, je ne sais pas quel Dieu tu sers, mais moi, tu vas me voir constamment amoureux de Dieu. Je refuse ça. Il y a quelque chose qui me passe... Il y a trop de gens qui passent de passionnés, brûlants, engagés, à ensuite des gens juste convaincus. Ça fait du sens. Dieu, là, c'est bon. Puis un peu plus tard, tu parles avec ces gens, puis ils sont... C'est intéressant quand même. C'est une façon de voir les choses. Puis tu continues, puis tu le revois une année après, puis tu le commentes. Puis... Ah, pourquoi pas? Si j'ai pas brunch, je vais à l'église. S'il fait pas trop beau dehors, j'irai peut-être à l'église. Pourquoi pas? Des fois, ça amène des trucs bien, des fois, ça dépend qui prêche, ça dépend qui fait la louange. Puis après, un peu plus tard, tu les revois, puis tu dis, hey, comment ça va avec Dieu? Puis ça... Tu sais, quand ils te font ça, tu comprends déjà qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire. J'ai été un peu déçu, j'ai été un peu truc, je sais pas trop, c'est une forme de, ouais, bon. Puis tu les vois finalement, puis ils sont comme froids. Dieu, c'est... Et des fois, j'ai envie de secouer ces gens. Tu te rappelles à ton baptême? Tu te rappelles comment on a rêvé ensemble, qu'on a pleuré ensemble, comment on a célébré Dieu? T'en es où maintenant? Parce que la plupart des chrétiens ont une phrase... qui me fatigue, mais qui fait du sens, mais qui me fatigue. Ils disent, ouais, tu sais, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Yeah, right. Montre-moi alors ta relation, alors. Parce que la plupart des gens qui me disent ça, ils ont pas du tout une relation avec Dieu. Ils disent ça pour justifier, non, je vais pas tous les dimanches à l'église, tu sais, parce que c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Non, tu sais, moi, je prie quand j'ai envie, parce que c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Ils sont en train de se justifier eux-mêmes pourquoi ils sont froids avec Dieu. sais, quand les gens me disent, hé, Yves, est-ce que t'es marié? Est-ce que t'es en feu? Je dis, oh, c'est pas une histoire de contrat de mariage et tout ça, c'est une relation de ma femme et moi. Mais bien sûr, comment je suis marié? J'aime Janet à fond, là, c'est sûr, cette histoire-là. Et je rêve de voir des gens qui sont passionnés comme ça. Bon, je sens que je suis un peu le seul passionné ce soir, c'est pas grave. C'est ok, c'est ok. On est chacun à notre rythme. Je suppose que peut-être un jour, quelqu'un me dira, c'était vraiment un bon message, Yves. C'est... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est trop tard, faut pas le dire maintenant. C'est... Deux clés, on finit, d'accord? Deux clés. Moi, je t'ai expliqué cette histoire. Et puis là, le but, rappelle-toi. De parole au cœur, qu'est-ce qui va nous comment ces paraboles vont nous transformer? Là, je t'ai expliqué une parabole, une grille de lecture d'une parabole qui n'est pas la plus simple. Et le titre de mon message, c'est « Tu as besoin d'huile ». Tu as besoin d'huile. Et maintenant, j'ai essayé d'expliquer l'huile, puis d'expliquer des bonnes raisons de garder de l'huile, mais je veux te donner des clés pour justement garder ton huile. Et des choses que tu pourras faire dès que tu sors d'ici, j'espère en tout cas. Je veux être vraiment concret, je veux justement être dans la relation et pas dans la religion, d'accord? Alors voilà des exemples de choses que je t'encourage à faire, que j'ai moi-même éprouvé puis que je fais, afin de garder de l'huile. Et ça peut se résumer en deux mots, soit intentionnel. Soit intentionnel. Je reprends une histoire de relation, juste histoire de, je sens que ce soir c'est le truc qui vous fait réagir. Si tu me dis, je vais voir cette personne, ça fait un moment, on s'apprécie bien, on va finalement prendre un café ensemble. Est-ce que tu seras intentionnel sur comment tu vas te préparer pour ce café ? La plupart, vous allez être intentionnel. Avant le café, tu te demandes déjà, ok, dans quel café je vais l'emmener ? Il faut qu'il y ait du monde, mais pas trop de monde non plus. Il faut qu'on ait une table qui soit cool, il faut que machin. Tu te demandes, tu fais des trucs que tu n'as jamais pensé que tu ferais. Tu appelles au café. Est-ce que c'est possible de réserver cette table à cette heure ? Puis le café dit, mais c'est un café, là, on ne réserve pas des tables. Je voulais juste savoir au cas où. Tu te prépares, tu réfléchis, c'est quoi les habits la semaine d'avant? Tu dis, si je peux faire seulement une fois par semaine la lessive, je vais le faire, je vais garder cet habit de côté parce que c'est l'habit qui me donne le meilleur des profils. Je le mets de côté, je le porte pas, je veux rien savoir. Tu te prépares parce que quand tu vas à ce café, t'es intentionnel. J'ai envie de te dire, c'est la même chose, la relation avec Dieu, elle va rester si t'es intentionnel. Alors je vais donner des exemples de choses que je fais, tu peux me copier, tu peux t'en inspirer, tu peux en faire d'autres, mais sois intentionnel pour veiller sur ton feu. Sois intentionnel pour garder de l'huile. Voilà deux, trois choses que tu peux faire. Bateau, prends du temps avec Dieu tous les jours. Décide de prendre du temps avec Dieu tous les jours. Je connais trop de chrétiens. Pas toi, je vois tes yeux, tu penses que je t'accuse là. Mais trop de chrétiens prennent du temps avec Dieu quand ils ont du temps. Et quand tu demandes à ces mêmes personnes, ça va toi? Ils disent, j'ai pas le temps. Donc tu vois, moi je réfléchis un peu des fois. Et je me dis, si tu n'as pas de temps, c'est-à-dire que tu prends jamais de temps avec Dieu. Et la plupart des gens me disent, Sarah, j'aimerais vraiment lire la Bible, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais vraiment faire des trucs, mais je n'ai pas le temps. Alors j'ai envie de te dire maintenant, sois intentionnel. Décide. Il y a un truc incroyable, révolutionnaire, qui s'appelle un calendrier, un agenda. Oufissime, je te jure. Décide maintenant de bloquer des temps pour Dieu. Décide de dire, en fait, chaque jour, je bloque du temps pour Dieu. Décide de mettre en place des routines dans ton quotidien pour Dieu. Et ne me dis pas, ouais, non, mais ça, c'est religieux. Non, ça, c'est des gens qui aiment Dieu. Ça, c'est des gens qui sont intentionnels avec Dieu. Quand tu vois un couple qui prend du temps ensemble, tu ne dis pas, bah, les gars, il fallait que ce soit spontané. Non, tu dis, ils s'aiment. Ils veulent que ça dure, cette histoire. C'est la même chose avec Dieu. Deuxième des choses que tu peux faire, cultive un entourage riche avec des gens qui parlent dans ta vie. En d'autres termes, les amis des réseaux sociaux ne suffiront pas. Aie des gens qui ont le droit de parole dans ta vie. Moi, j'ai des gens extrêmement embêtants. Parce que quand je leur parle, ils me posent toujours des questions que je n'aimerais pas qu'ils me posent. Comment ça va avec Dieu? Je t'en pose des questions, toi? J'ai des gens qui, tu sais, juste, je ne sais pas. Ok, on va... Bientôt, il y a les 20 km là, de Lausanne. Qui va des fois courir? Quelques-uns, ok, quelques-uns. T'as déjà vu la différence quand t'es moyennement motivé puis que tu cours avec un très motivé? Comme c'est relou. L'autre fois, je vais et vraiment, je suis comme là, j'ai pas envie. Puis j'appelle un gars de l'église, il me dit « Ah ouais, à fond, on y va, ouais !» J'ai un peu la jambe « Ouais, ouais !» J'arrive, tu sais, je suis là 10 minutes avant lui, je m'échauffe, je suis là « Seigneur, si peut-être il vient pas !» Je me dis, peut-être s'il a 2 minutes de retard, c'est la bonne excuse pour partir. Il arrive juste 3 minutes avant le rendez-vous. Je dis, ah, man, ouais, ça va. Il me dit, on y va tranquille hein, aujourd'hui. Je vois déjà qu'il courait déjà avant de venir. Et moi, je suis comme un peu, ah, ouais, ok, bon, on y va, mais on y va tranquille. Ah non, bien sûr, tranquille. On commence à courir, il parle tout du long. J'arrive pas. Arrivé à la moitié du tour qu'on avait prévu de faire, je dis, si tu veux, tu peux aller tout seul, là, tu vas trop vite pour moi. Elle me dit, non, non, je ralentis, on va à ton rythme. J'ai regardé toutes mes courses de toute l'année, j'ai jamais été aussi rapide que dans cette course-là. De toute l'année. Même les fois où j'étais bien physiquement, même les fois où j'étais motivé, j'étais pas aussi rapide que cette course-là. Mais dans la vie, c'est la même chose, tu dois avoir des gens qui courent tellement après Dieu que quand t'es avec eux, Moi, j'ai des gens... Ils me disent, ouais, Yves, c'est bien que je te parle parce que justement, j'étais en train de prier et tu vois, je sors d'une période de jeûne et puis Dieu m'a révélé un truc pour ta vie et tout ça. Et toi, comment ça va? Ok, je vais jeûner la semaine prochaine, moi aussi. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu, il veut, pourquoi, c'est quoi? Les gens, ils vivent tellement de trucs avec Dieu. Je suis là, j'ai aussi envie de vivre des trucs avec Dieu. J'ai pas envie de me retrouver à côté. Ouais, moi, je sais pas, j'étais sur Candy Crush sur mon téléphone. Non. Non, si Dieu, il fait des trucs comme ça de fou avec toi, moi, je veux aussi. Aie un entourage riche, des gens qui parlent, des gens qui courent et des gens qui t'inspirent à courir. Tu ne te rends pas compte de l'influence de ton entourage. Construis avec une famille spirituelle. Moi, je construis avec une famille spirituelle. Je m'engage auprès de gens. Et on est dans une phase ici à Home où honnêtement, ça me demande plus qu'avant. Parce qu'il y a Home du matin, il y a Home du soir, il y a Home Genève, il y a des implications qui ne sont pas les mêmes. Je suis étiré et je suis là, mais Seigneur, je dois constamment être intentionnel, créer de l'espace. D'un coup, regarde notre agenda avec mon épouse. Je dis, ok, comment c'est possible? Parce que l'Église, ce n'est pas des programmes, l'Église, c'est une famille. Et je dois être intentionnel là-dessus. Intentionnel pour créer de la place, intentionnel pour faire ça. Il y a trop de gens qui prennent l'Église comme un restaurant. Ils arrivent à l'Église, ils mettent les pieds sous la table, ils disent, on ne va pas bien accueillir. C'est une famille en fait. C'est une famille, prends le temps, regarde des gens. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui viennent sur scène, qui t'embêtent, dis bonjour à quelqu'un et toi t'es là, ah, je voulais juste parler avec Dieu. Mais c'est pas l'Église. L'Église c'est avec Dieu et c'est avec les autres. All right. Autre chose que tu peux faire, cultive une vie d'adoration. Cultive une vie d'adoration. Passe du temps dans la louange et dans la prière. Décide de dédier des pans entiers de ta vie à Dieu. Décide de dédier des pans entiers de ta vie à Dieu. Ça, Seigneur, c'est pour toi. Ce que je fais là, c'est pour toi, Seigneur. C'est afin que ton royaume avance, Seigneur. C'est je te le redonne, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Je veux te le redonner. Tu sais. Décide d'avoir une vie qui est comme ça. Tu verras, quand tu vois des gens qui vivent une vie d'adoration, ça pue positivement. Quand tu es à côté d'eux, tu te dis, mais bon, pourquoi tu es toujours heureux, toi? Pourquoi tu es toujours... Non, parce que j'ai une vie d'adoration, c'est incroyable, parce que je donne à Dieu, il me redonne des trucs, je vis des trucs, c'est ok, c'est bon. La question, ça, c'est 2-3 choses que moi, j'essaie de faire. La question, c'est pas qu'est-ce que Yves fait, c'est qu'est-ce que toi, tu fais. Comment est-ce que toi, tu es intentionnel? Comment, en sortant d'ici, tu vas dire, moi, je n'ai pas envie de faire partie des vierges teubées. J'ai pas envie de faire partie du groupe des femmes bêtes. J'ai pas envie d'un coup d'être réveillé au milieu de la nuit. Ah, j'ai pas d'huile. J'ai envie de garder mon huile. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Ça suffit pas de le désirer. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Et puis la deuxième clé, rapidement, pour finir, méfie-toi des distractions. On est dans un monde où il y a constamment des distractions. Tout nous distrait. En moyenne, une personne prend son téléphone environ 100 fois par jour dans les mains. Et puis la plupart, tu saurais même pas me dire c'est quand les 20 dernières fois que tu l'as pris. Mais tu prends ton téléphone 100 fois par jour en moyenne. On a des notifications, des interpellations, des conversations. On est toujours distrait, constamment. Herbert Simon, qui est prix Nobel d'économie, a formulé le concept de l'économie de l'attention. Peut-être tu as entendu parler de l'économie de l'attention. En 1971, il a dit la chose suivante. Écoutez bien, ça ne va pas s'afficher. Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme, c'est assez évident, c'est l'attention de ses receveurs. Donc une abondance d'informations crée une rareté de l'attention. Je le répète, hein, j'essaie de lire calmement. Une abondance d'informations crée la rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations que nous pouvons consommer. Ça, c'est un économiste qui est en train de te parler en 1971. Il y en a certains, tu penses, c'est quoi 71 c'est trop loin. Ben déjà, à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient en train de dire, il y a tellement d'informations que maintenant, la chose qui est difficile, c'est notre attention. Et on vit toujours plus distrait. En d'autres termes, l'économie de l'attention, c'est quand notre temps et notre concentration sont les ressources les plus précieuses. Et on doit choisir soigneusement où est-ce qu'on investit du temps et notre énergie mentale. Méfie-toi des distractions. Aujourd'hui, la plupart des gens se plaignent du manque de batterie sur leur téléphone. Hein. Mais si tu regardes la consommation que tu fais, il y a une corrélation directe en fait. La batterie, elle ne disparaît pas de nulle part. Si ta batterie disparaît si vite, c'est qu'en fait un reflet de à quel point on utilise nos téléphones. Je regardais un petit peu ça et on nous dit qu'en moyenne, les gens passent 3 heures par jour sur leur téléphone. On a tous les applications pour regarder hein, combien de temps tu passes par jour. Tu verras, c'est pas ouf. Des 3 heures, c'est pas ouf. 3 heures par jour sur ton téléphone. Tu te rappelles le calcul que j'ai fait au départ. Il nous reste en moyenne 57 ans de vie. Ça veut dire qu'en 57 ans, si on garde cette moyenne, on va passer 62 000 heures sur notre téléphone. Il semblerait que ce n'est pas un truc qu'on va regretter quand on sera sur notre lit de mort. J'aurais voulu passer plus de temps sur mon téléphone. Il semblerait. Alors n'attends pas d'être sur ton lit de mort pour regretter ça. Arrête maintenant. Coupe un peu et je sais, j'ai un téléphone, les amis, ok? Je ne suis pas en train de te dire, jette ton téléphone. Oh, le pasteur, il a dit qu'on est... Non. Méfie-toi des distractions. Mets des limites à ton téléphone. C'est un truc de fou, cette histoire. Veille à ce qui te distrait. J'aimerais te le dire ainsi, tu ne peux pas veiller sur ton feu et ton huile si tu es constamment distrait. Puis on pourrait prendre plein d'autres choses. Hein. Téléphone, mais tu regardes les statistiques, Netflix, tu regardes Disney+, toutes ces histoires-là. Ils sont tous dans l'économie de l'attention, ils sont tous en train d'essayer de nous prendre plus d'attention. Le nombre de pubs qu'il y a par jour, c'est une crise mondiale. Maintenant, je finis, puis j'invite le groupe de musique à revenir avec une illustration pour vous. Imagine un instant 24 briques. 24 briques. Pas de secret, c'est les heures, d'accord ? 24 briques comme 24 heures. 24 briques. Maintenant, voilà ce qu'il faut enlever. Et là, je prends des moyennes suisses. En moyenne suisse, on dort 7 heures par jour. Donc, tu enlèves déjà 7 briques. Bon, certains vous disent, non, moi, je suis très cool, je dors que 4 heures, tu vas t'effondrer, fais attention. C'est pas viable, là, les 57 ans, tu les auras pas, là, à ce rythme-là. Mais en moyenne, les gens dorment 7 heures, tu enlèves 7 briques. Ensuite, on travaille en moyenne 8 heures par jour. Puis à ça, on doit rajouter aussi une heure de déplacement. La plupart des gens sont dans un ratio entre 20 et 30 minutes de leur lieu de travail ou de leur lieu d'études, aller-retour, une heure, d'accord ? Donc on enlève aussi ça. Ensuite, il faut compter pour dire, on estime, 3 heures pour les repas. Parce que tu as le repas que tu engloutis sans réfléchir, mais tu as le repas que tu cuisines aussi. Et du coup, ensemble, on va compter 3 heures. Donc là, rien qu'à dormir, travailler et manger, on est environ à 19 heures. Tu peux faire le calcul pour toi si tu veux. Où est-ce que tu en es avec des choses qui sont plus proches de toi. Mais on est à peu près à 19 heures. Et j'ai envie de te dire, malheureusement, sur ces 19 heures, tu n'as que très peu de flexibilité. Tu peux bouger un petit peu une chose ou l'autre, mais c'est dur de faire moins que ça, ou alors c'est malsain de faire moins que ça. Si tu penses, je vais récupérer des heures en dormant moins, mauvaise idée. Donc on a environ 19-20 heures qui... Voilà. Qu'est-ce qui te reste ? Il te reste environ 5 heures pour toi. Environ 5 heures. Et maintenant, il faut rajouter les études, il faut rajouter quand tu fais du job en plus, donc les heures supplémentaires, les examens, les trucs comme ça, il faut rajouter le temps pour tes amis, le temps social, tout ça, ok. Mais ma question, elle demeure. C'est quelle brique que tu laisses à Dieu ? C'est quelle brique qu'on laisse à Dieu ? C'est à quel moment qu'on va dire, ok Seigneur, je te laisse une brique en fait là. Je laisse une brique parce que j'ai envie de faire partie de ceux que tu estimes sages. On va chanter un chant, on peut commencer à jouer sans autre, mais cette parabole, pour moi, elle est tellement éclairante, parce qu'elle nous dit qu'il y a deux façons de vivre notre foi, une sage et une folle. Puis la sage, ça consiste à veiller à cultiver la présence de Dieu, à avoir des réserves d'huile. Puis tu en auras besoin dans la vie. Tu en auras besoin avec des délais, tu en auras besoin peut-être pour entrer dans ta destinée. Mais je crois, puis j'ai envie d'être l'avocat de ceux qui disent « t'en as besoin » parce que c'est la plus belle chose qui soit. C'est Dieu. Puis pour veiller sur ton huile, tu dois être intentionnel et puis tu dois veiller aux distractions, tu dois te méfier de tout ce qui te distrait. Puis l'histoire, elle se termine extrêmement de façon surprenante. J'aimerais juste rajouter ça, mais l'histoire, elle se termine de façon non chrétienne, si tu veux mon avis. Parce que les folles vont vers les sages et puis elles leur disent « donnez-nous un peu d'huile ». Puis les sages disent « non, c'est pas chrétien de dire non ». C'est pas gentil, tu sais. Allez, soyez cool quand même. Donnez un peu d'huile. Puis pendant un moment, vous, ça vous dérange pas parce que vous êtes mieux que moi. Mais moi, ça m'a dérangé cette histoire pendant un moment. C'est pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tiens, un peu d'huile. C'est le temps. Tu t'es endormi, t'as été bête. Mais il y a deux principes que j'aimerais juste souligner pour toi. Le premier principe, c'est que tu peux pas partager ce qui est de l'ordre de ton intimité avec Dieu. Tu vois, trop souvent, les gens sont là, oh, j'aimerais bien de ci, j'aimerais bien de ça, puis j'aimerais bien aller un peu plus vers, parce que je vois que cette personne a cette vie, mais cette personne ne peut pas te donner son intimité avec Dieu. Tu vois, c'est son intimité avec Dieu. C'est pas partageable, cette histoire-là. C'est un principe, c'est pas possible. Puis je dirais, j'ai tout un message là-dessus, méfie-toi de l'onction des autres. Il y a des gens, vous vivez votre foi par procuration. Juste parce que tu es entouré de gens qui ont une foi forte, ferme, vibrante et compagnie, tu penses que toi aussi tu as la foi vibrante, mais c'est pas le cas. Tu vis au travers de la foi des autres. Méfie-toi de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas te partager ça. C'est ton intimité avec Dieu. Il n'y a personne qui peut te donner ça. Puis ça, c'est un des principes. Mais il y a un deuxième principe qui est super intéressant. C'est que voilà ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Et voilà ce qui se passe dans cette histoire. L'huile, elle permet quoi ? Elle permet que la lumière brille. Puis le même Jésus qui raconte cette histoire, il nous dit qu'on est sel et lumière du monde. Puis tu ne peux pas partager ton huile à toi parce que ton huile à toi, c'est pour que tu puisses briller là où Dieu t'appelle de briller. Et il ne veut pas, en fait, que tu ne brilles pas. Il veut que tu brilles. Et du coup, il y a des choses où c'est juste de dire non. Écoute, j'aimerais vraiment, mais je dois briller pour Dieu. Alors, je ne peux pas te donner cette huile-là. Parce que je lui ai donné ma vie, puis en fait, ma vie lui appartient. Puis il faut que je veille à briller moi-même. Et au début, je voyais ce nom comme un nom très méchant. Puis en fait, je crois que c'est un nom extrêmement saint. Non, je ne peux pas te donner ça. Parce que tout d'abord, c'est mon intimité avec Dieu. Mais en plus de ça, ça, c'est pour vivre la mission que Dieu m'a donnée. Il faut que tu ailles chercher ta propre huile. Et des fois, j'ai l'impression que c'est la meilleure chose que tu peux dire à un ami, un frère, une sœur dans la galère. C'est dire, il faut que tu ailles chercher ta propre huile, là. Attends pas que ce soit le moment. Va maintenant chercher ta propre huile. Je ne veux pas te passer mon intimité avec Dieu. Mais toi, tu peux maintenant te mettre à l'œuvre, puis j'espère que ce message va faire pour vous.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.